France Inter.
It's morning edition from NPR News.
MCT's and in the house.
Halia Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Son pas changé de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse.
Ce soir, au lendemain de la reconnaissance de l'État de Palestine par la France et après le discours de Trump, sans surprise, nous sommes heureux d'accueillir Karim et Fadi Katan, les deux frères palestiniens, auteurs pour l'un, chef cuisinier pour l'autre, qu'on a déjà entendu à de nombreuses reprises dans Un jour dans le monde, et leur vision et leur réflexion nous intéressent évidemment grandement. Puisque nous sommes encore à l'ONU, reste-t-il encore des institutions internationales? C'est ce que Frédéric Seiss va poser sur la table dans Le Monde à l'endroit. Le reportage est en Albanie, dans une zone protégée depuis 2023 seulement contre le béton et la destruction, et bien depuis 2 ans seulement, vous entendrez que la protection est toute relative.
Les camions sont en plein milieu du lit de la rivière et tranquillement, en plein parc national, ils détruisent son lit de gravier. C'est un véritable désastre pour cet habitat.
Un reportage signé Louis Seyé que vous découvrirez autour de 18h40. Sous les radars, Guillaume Audat a trouvé une histoire à pleurer de honte. Un Australien interviewé à la télé avec du bacon sur sa cravate pour éloigner les musulmans. Il faut vraiment l'entendre pour le croire. Et puis Caroline au pays des 27 avec Caroline Gillet dans les coulisses du 19e pacte de sanctions contre les Russes. Le monde est vaste et on n'a pas une heure, les amis. Allons-y.
Je porte ce drapeau parce que ces pays ont reconnu la Palestine et on est très fiers de cette reconnaissance.
C'est sûrement pas assez, ça changera sûrement rien sur le terrain. La reconnaissance que nous voulons, c'est d'arrêter le génocide d'abord et appeler à la fin de l'occupation, tout ensemble.
Voilà, ces manifestants étaient à Ramallah. Il y a eu plusieurs rassemblements en Cisjordanie pour célébrer ou pas, d'ailleurs, la reconnaissance de l'État de Palestine par la France et par d'autres, recueillis par Étienne Monin et par Éric Audrat. Bonsoir Karim Katan.
Bonsoir.
Et bonsoir Fadi Katan.
Bonsoir.
Merci à tous les deux d'être là. Vraiment, Karim, vous êtes écrivain, vous vivez à Paris. Fadi, vous êtes chef cuisinier, vous êtes hôtelier, vous écrivez aussi des livres. Et vous vivez à Bethléem. On est heureux de vous recevoir tous les deux. Je le disais, on s'est déjà parlé séparément. En général, on est content de vous avoir tous les deux ici. Mmh. Fadi, puisque vous vivez à Bethléem, je me demandais si ces rassemblements, puisqu'il y en a eu un peu partout, est-ce que vous auriez été, si vous aviez été à Bethléem, vous rassembler au milieu des autres, et pour dire quoi?
Je ne sais pas si je serais sur place, mais pour dire quoi? Pour dire la reconnaissance, très bien, mais qu'est-ce qui vient après la reconnaissance? Parce que là, on a une situation critique, il y a un génocide à Gaza, en Cisjordanie, les colons attaquent dans tous les sens. Il y a aussi, déjà, une punition collective qui est exercée par Israël. Donc, est-ce qu'il va y avoir des actions réelles pour mettre en place le plan qui a été annoncé hier soir par le président Macron?
Parce que c'est un vrai plan, effectivement, c'est ça qu'il a annoncé, Karim Katan. Mais, au fond, qu'est-ce que vous attendez de la France pour que cette démarche aille au-delà du symbole, de très concrètement là demain, pour que vous ayez vraiment le sentiment que quelque chose peut-être peut changer?
La mise en place de sanctions. En fait, on sait, tout le monde sait. Tout le monde sait qu'il faut d'abord des sanctions pour mettre fin au génocide, et ensuite on parlera du reste, parce que cette reconnaissance d'un État... Alors, il faut le saluer, je pense que c'est en effet un moment d'une historique, en demi-teinte. En demi-teinte, mais historique quand même. On peut pas s'empêcher de penser un peu que c'est une espèce d'esquive. C'est-à-dire que on fait une reconnaissance de pays pour ne pas avoir à mettre en place des sanctions. Donc autant je salue en partie cette reconnaissance, autant ce qu'on attend d'abord, ce sont les sanctions.
Est-ce que vous nous sentez capable de les poser, ces sanctions-là? Et quand on dit nous, c'est-à-dire c'est pas seulement la France. Si ça marche pas d'un bloc et que c'est pas l'Union européenne, je sais pas très bien à quoi ça pourrait servir. Est-ce que vous sentez qu'on est dans cette direction-là, qu'on est capable de ça en fait?
Capable, je pense que c'est pas à moi de l'estimer. En revanche, ce que je peux voir, c'est que je n'ai pas l'impression qu'au niveau des gouvernements, il y ait vraiment cette volonté. Et ça, c'est quand même regrettable.
Qu'est-ce qu'on reconnaît, à votre avis, quand on reconnaît l'État de Palestine aujourd'hui? Est-ce qu'on reconnaît un peuple? Est-ce qu'on reconnaît un territoire? Est-ce qu'on peut reconnaître un peuple sans un territoire? Est-ce qu'on reconnaît un peuple au moment où il est en train de disparaître? Enfin, comment vous le... Qu'est-ce qu'on reconnaît, en fait, aujourd'hui?
Sur le côté symbolique, il y a quand même quelque chose d'énorme. C'est qu'on peut dire aujourd'hui Palestine, on ne dit plus territoire palestinien, on ne dit plus apatrides pour les Palestiniens.
Est-ce que c'est ça que ça veut dire pour vous? Y compris en m'adressant à vous, je dis vous vivez à Bethléem en Palestine, c'est ça voilà. qui change en fait.
Votre correspondant sur place n'est plus votre correspondant depuis hier soir, n'est plus votre correspondant en territoire palestinien occupé, c'est votre correspondant en Palestine occupée.
Mais pardon, pourquoi est-ce qu'il l'est plus aujourd'hui qu'il ne l'était encore avant-hier, quand il y avait de toute façon une centaine de pays qui avaient déjà... Est-ce que le poids de la France, c'est de pouvoir, là pour le coup, le dire et que les 100 et quelques précédents avaient moins de poids?
Alors, j'interviens sur ça. Hélas, on est en train de se comporter comme si ces espèces de reconnaissances tardives qui viennent après que la majorité des pays du monde ont reconnu la Palestine, changeaient la donne. Alors, en partie, ça change la donne, puisque d'abord pour nous, puisqu'on est aussi français, donc quelque part ça nous touche personnellement, mais on retombe un peu dans un travers qui est de penser que la France ou l'Europe ou l'Occident est le centre du monde. Ce qu'on a vu ces deux dernières années, c'est que ce n'est plus le cas.
Il y avait Ilyes Sambar sur l'antenne de France Inter ce matin qui parlait quand même de visibilité en fait. Redonner une visibilité, et on comprend bien ce qu'il est en train de dire, donner une visibilité précisément au moment où la question de cette visibilité elle se pose parce que les morts se comptent par dizaines, pas seulement d'ailleurs à Gaza. L'idée de la visibilité ça vous parle ou...
Bien sûr la visibilité est importante, mais à un moment on est très sceptique parce que il y a eu dans le passé, depuis la présidence Hollande jusqu'à aujourd'hui, il y a eu plusieurs initiatives françaises qui sont tombées à l'eau. Qui sont tombés à l'eau parce qu'il n'y avait pas justement ce bloc de l'Europe derrière. Et là, c'est un moment quand même clé pour, je pense, la France, à mener cette fin du génocide, mais aussi, derrière, la fin de l'occupation.
Après, dans le plan d'Emmanuel Macron, donc le plan de paix, un futur sans le Hamas, une gouvernance future à Gaza... avec ce qui sera une forme d'autorité palestinienne. Mais vous êtes bien placé pour savoir que l'autorité palestinienne, on ne sait plus ce que c'est aujourd'hui. Vous êtes bien placé pour savoir qu'il n'y a pas eu d'élection depuis 20 ans. Donc ce n'est pas seulement, de toute façon, le mouvement que pourra faire la France ou pourra faire l'Europe, c'est aussi le mouvement politique qui doit se faire à l'intérieur, aujourd'hui, de la Palestine.
Alors d'abord, je pense qu'il y a une autre réalité. À chaque fois qu'on parle, alors on peut penser ce qu'on veut de la solution à deux États. Je roule des yeux, pour info. Mais en réalité, il y a juste une autre question, c'est sur quel territoire?
C'est ça.
De quoi on parle? De quel territoire? Il n'y a pas de territoire, en fait.
C'est pour ça que je vous demandais tout à l'heure, est-ce que c'est un territoire ou est-ce que c'est un peuple?
Oui, vous avez raison. Moi, là où je trouve que le symbole, il est fort, c'est en effet par rapport à une reconnaissance des aspirations à la liberté d'un peuple. Après, dans le concret, beaucoup de choses restent à déterminer.
Mais parce que ce que ça veut dire aussi, c'est que, parce qu'on le voit venir, le coup de revanche, pardon, mais de Benjamin Netanyahou. Et le coup de revanche, alors ça peut être à nouveau sur Gaza, un bombardement massif, mais ça peut surtout être, y compris l'annexion d'ailleurs, parce que ça c'est des mots qu'il a prononcés, l'annexion de la Cisjordanie, de là où vous habitez aujourd'hui. Est-ce que ça vous le craignez, ce coup de bâton en retour?
Il y a un grand vide entre la réalité sur le terrain et la réalité, même dans le discours du président Macron hier, l'annexion, elle existe de fait. Le génocide à Gaza existe de fait. C'est très bien de dire les Palestiniens n'ont pas eu d'élection depuis 20 ans, mais on n'a pas les composantes pour pouvoir avoir des élections. Une des raisons, de nombreuses raisons, mais l'une des raisons pour laquelle on ne pouvait pas avoir d'élection, c'est qu'il n'y avait aucune continuité territoriale sur ce que... Cette grande définition de la Palestine sur les territoires de 67, très bien. Mais dans les territoires de 67, il y a 850 000 colons israéliens qui augmentent tous les jours. Et là où, justement, l'action de la France à un moment, moi je me pose la question, est-ce que la France va aujourd'hui sanctionner une grande partie des binationaux franco-israéliens qui habitent dans des colonies illégalement?
Vous dites qu'il n'y a pas eu, qu'on ne peut pas faire des élections dans un territoire aussi découpé, enfin que ça, c'est tellement compliqué, ça ressemble à rien. Il n'y a pas eu d'émergence non plus d'une figure palestinienne au fond ces 20 dernières années. S'il n'y a pas d'émergence, est-ce que c'est parce qu'il n'y en a plus, parce qu'ils sont emprisonnés ou parce qu'ils sont morts? Est-ce que c'est ça la raison? Est-ce qu'il y a une autre raison? Est-ce que c'est aussi une espèce d'aquabonisme, en fait? À quoi bon, de toute façon?
Il y a la perte d'espoir.
Ouais.
Moi, il y a 10 ans, j'ai travaillé pour le ministère du tourisme palestinien parce que j'avais espoir. J'ai fait 2 ans. Au bout de 2 ans, de me prendre des murs parce que aucune continuité territoriale, parce que pas d'accès sur les sites archéologiques, etc. À un moment, on perd cet espoir. Et quand on perd cet espoir, c'est très difficile d'avoir notre jeunesse palestinienne, qui est très capable de pouvoir émerger avec des figures, d'avoir cet espoir de se dire « mais demain, je ferai de la politique en Palestine, je pourrai changer les choses ».
Après, ce que vous dites est très vrai aussi. Oui. Beaucoup d'entre eux sont ou ont été emprisonnés, sont morts. Il y a quand même un climat aussi, il ne faut pas oublier, de terreur qui règne dans, en Cisjordanie, je parle de la Cisjordanie parce que c'est ce que je connais, vis-à-vis de la chose politique. C'est-à-dire qu'on se dit que être dans la chose politique, c'est s'exposer à toutes les représailles. Et ça, évidemment, ce qui est vrai. Et ça, ça a fait aussi...
Cuisiner, écrire.
Oui, bien sûr.
Ce qu'on fait tous les deux, d'ailleurs.
On a peur tout le temps.
On se prend...
On vient
beaucoup,
ici,
beaucoup,
notre mère n'est pas contente.
De risque, bien sûr.
Est-ce que ça veut dire aussi, vous qui habitez à Ramallah, Fadi, enfin à Bethléem, pardon, s'il y avait des élections demain, pour une raison ou pour une autre, si on arrive à faire des élections, il n'y aurait évidemment pas le Hamas, la communauté internationale, de toute façon, pour mettre en place le fameux plan d'Emmanuel Macron en lien avec l'Arabie Saoudite, tout ça, ça ne fonctionnerait pas, il n'y participerait pas. Néanmoins, est-ce que vous dites aujourd'hui, oui, les Palestiniens se sont détournés du Hamas ou pas? Se sont détournés du Hamas ou pas?
Je pense que les Palestiniens cherchent aujourd'hui un espoir dans une figure politique qui peut être qui peut porter le futur. Personnellement, si votre question est je voterai quoi? Je voterai à la gauche, comme j'ai toujours voté, que ce soit en France ou en Palestine.
Mais est-ce que ça veut dire que il peut y avoir une élection sans la présence du Hamas aujourd'hui? Est-ce que vous sentez qu'il y aurait une partie de la population qui dirait attendez, de quoi je me mêle, laissez-nous faire des élections libres? Enfin, voyez,
qu'est-ce
que ça dirait?
Je pense qu'on devrait faire des élections libres, comme partout. Parce qu'en France, on fait des élections avec des partis de tous bords. Parce qu'en Irlande, on a négocié avec le Sinn Féin. Je pense que c'est un choix palestinien. Aujourd'hui, qui est-ce qui est capable, dans la réalité d'un génocide et d'une annexion de fait en Cisjordanie, je manque d'imagination d'imaginer une élection en Palestine aujourd'hui. Je ne peux pas vous dire, je pense que les trois candidats qui seront à la présidence seront M. X, Mme Y et je ne sais pas. Puisque justement, il y a cette désolation.
Entre les mains des Palestiniens, vous dites, et vous avez raison, qu'on le veuille ou non, entre les mains d'autres aussi, et notamment des Américains. On l'a entendu, Trump à la tribune là, des Nations Unies, mais au fond, c'est pas étonnant de dire que la France récompensait le Hamas. Il l'avait déjà dit, il n'est pas le seul à l'avoir dit. C'est pas étonnant, et pourtant, la solution est entre ses mains. Si lui disait stop, là, pour le coup, quelque chose se passerait. On est d'accord avec ça?
Et bien sûr. Les États-Unis, aujourd'hui, détiennent toutes les cartes en leurs mains. Et c'est à eux de prendre cette décision. Est-ce qu'on peut aujourd'hui penser à un Gaza futur? Moi, j'ai du mal. J'ai du mal. Et à un moment, il faut que la communauté internationale soit responsable des mots qui ont été prononcés hier et avant-hier par les Anglais, par les Français, par tout le monde. Il faut qu'il y ait vraiment un espoir donné aux Palestiniens. Et je pense que l'espoir ne sera ni le Hamas, ni autre. D'ailleurs, je pense qu'il y a un espoir qui peut être fait avec d'autres individus, d'autres partis politiques. Mais il faut que les Palestiniens... Parce que, vous savez, c'est pas 2 ans. C'est toute notre vie. J'ai 47 ans, Karim en a 12 de moins que moi. On a passé toute notre vie sous occupation. Donc à un moment, il faut qu'on puisse avoir le droit de faire ses choix.
Merci beaucoup. Vous rentrez à Bethléem dans peu de temps. Vous rentrez la boule en ventre ou vous rentrez content de rentrer?
Je rentre toujours content de rentrer parce que j'adore Bethléem. Je rentre toujours avec la boule au ventre parce que ce n'est pas évident tous les jours.
Fadi Khatan, merci beaucoup. Vous êtes, je le rappelle, chef cuisinier restaurateur et je vais citer quand même votre livre Bethléem 90 recettes familiales et traditionnelles de Palestine chez Solar parce qu'on peut aussi se souvenir qu'il y a cette tradition-là et vous la portez magnifiquement bien. Merci. Karim Khatan, votre dernier livre s'appelle Hortus Conclusus. C'est un recueil de poèmes, ça veut dire jardin clos. Et c'est publié aux éditions L'Extrême Contemporain. Merci mille fois à tous les deux.
Merci.
La suite, c'est Le Monde à l'endroit et c'est vous Frédéric Saïs.
Les Nations Unies critiquées, moquées cet après-midi par Donald Trump. Adieu le multilatéralisme.
Allez, c'est juste après ça. There's a space inside my head, she stays. And her voice sometimes is so commanding. Though there's miles between us nowadays, I can swear sometimes I still see her standing. There, I gotta keep holding on. Wherever she is must be wrong. Get her off my mind. I see you. So-
true love can't be blind.
True Love Can't Be Blind, de retour, Curtis Harding dans la playlist d'Inter. Grâce à Djoubaka, le monde à l'endroit, c'est Frédéric Seyss.
Fabienne Synthèse.
C'est vrai,
le 18-20.
Et alors la question est un peu lapidaire, mais néanmoins claire. Existe-t-il encore, Frédéric, des institutions internationales ?
Pas dans l'esprit de Donald Trump, en tout cas, Fabienne. À la tribune de l'ONU, il y a moins de 3 heures, le président américain a constellé son discours de critique contre les Nations Unies. Ici, même l'escalator est en panne, a pesté Trump au micro devant les dirigeants mondiaux, avant de se plaindre d'un dysfonctionnement du prompteur pour lire son texte. Dysfonctionnement symptomatique, selon lui, d'une institution à la dérive. Alors après ces menus commentaires techniques, les oreilles du patron de l'ONU, qui était à 2 mètres de Trump, n'ont pas fini de siffler. Les Nations Unies financent l'invasion migratoire, accuse le président américain, mais elles sont infichues d'arrêter les guerres. Bref, vous l'aurez compris, un pilonnage en règle au sein même de l'institution. Alors attention, ce n'est pas une saute d'humeur, mais bien une position de fond.
Une hostilité, Frédéric, assumée au multilatéralisme.
Oui, assumée et théorisée par Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, estime que l'ordre mondial issu de l'après-guerre est obsolète et qu'il est utilisé contre nous, Américains. Autrement dit, l'ONU favoriserait les adversaires des États-Unis et notamment la Chine. Alors, comme on dit, il n'y a pas de désamour, il n'y a que des preuves de désamour. En voici une. Donald Trump a coupé les vivres à l'ONU, pas un copec versé depuis son retour au pouvoir. En tout cas, déjà 1,5 milliard de dollars d'arriérés. Faute de trésorerie, les Nations Unies prévoient un large plan social l'an prochain. À cela s'ajoutent les critiques récurrentes, notamment de la part d'Israël, sur la partialité supposée de l'Organisation des Nations Unies. Un travail de sape pour délégitimer l'institution.
Et l'ONU, Frédéric, n'est pas la seule institution à subir ce sort.
La Cour pénale internationale vient de subir 3 défections, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, 3 juntes proches de la Russie qui annoncent leur retrait. Le message est clair, il s'agit de démonétiser cette instance, la CPI, qui tiens, avait émis un mandat d'arrêt, entre autres, contre Vladimir Poutine. Et puis, loin des projecteurs, une autre institution internationale est largement paralysée, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Vous savez, elle est censée faire progresser les échanges grâce à la baisse progressive des droits de douane. Inutile de préciser que la baisse des droits de douane, ce n'est pas exactement l'ambiance du moment. Et d'ailleurs, celui qui a bloqué la machine, ce n'est pas Donald Trump, mais un certain Barack Obama en son temps, qui accusait déjà de favoriser les intérêts commerciaux de la Chine. C'est l'OMC qui l'accusait, évidemment.
Donc, l'ONU, la CPI, l'OMC, critiquer, ça signifie qu'il y a de moins en moins de lieux où les États peuvent discuter et débattre.
Oui, ces institutions sont évidemment perfectibles, mais elles semblent de plus en plus boudées au profit d'autres cénacles, des clubs de pays qui se réunissent par affinité ou par convergence d'intérêts. Exemple avec les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud d'un côté, G7 de l'autre, occidentaux plus Japon. Citons aussi l'organisation de Shanghai, la Ligue arabe ou encore la coalition des volontaires pour l'Ukraine. Tout cela dessine un repli comme une archipélisation du monde à rebours de la construction diplomatique d'après-guerre. Alors on parle souvent de communauté internationale, mais dans communauté, il y a le mot commun et on peine ces jours-ci à le discerner.
Frédéric Seiss, merci beaucoup, vous reviendrez demain. Le reportage d'un jour dans le monde est en Albanie ce soir. Et vous ne l'avez sans doute plus en tête, mais il y a deux ans, en 2023, le gouvernement albanais et la marque californienne Patagonia avaient célébré ensemble et en grande pompe le premier parc national de rivières sauvages en Europe. Une vraie victoire pour les écologistes et pour la cause environnementale. Après plus de 10 ans de lutte, tous les projets de barrages hydroélectriques qui menaçaient la Viosa, un fleuve, à l'écosystème, à la biodiversité exceptionnelle, tous ces projets étaient désormais abandonnés. Mais ça, c'était il y a 2 ans et demi seulement. Depuis, eh bien, vous allez l'entendre, ça sent le pétrole. L'eau est détournée, on voit flotter des déchets. Les autorités semblent privilégier le développement tous azimuts du tourisme. Les associations environnementales tentent de se faire entendre et c'est compliqué. Le reste, c'est Louis Seyé qui raconte.
Des montagnes imposantes et des collines d'oliviers entourent un fleuve qui serpente librement entre d'immenses bancs de galets blancs. À première vue, les paysages près de la petite ville de Selenitsa paraissent idylliques. Mais une forte odeur de pétrole flotte au-dessus des berges qu'inspecte Olsinika. Le directeur de l'ONG Eco Albania montre des taches noires dans la terre boueuse.
Ça fait des années et des années que ce ruisseau, ce petit cours d'eau, sert, disons, de canal pour évacuer tous les déchets de l'industrie du pétrole qui s'extrait sur cette colline. Et il transporte avec lui toutes ces pollutions chimiques directement dans la Viosa.
Un peu plus haut près de la route principale, des champs grisâtres sont constellés de puits de pétrole hors d'âge. Et à quelques centaines de mètres de là, des tonnes de déchets aux métaux lourds d'une immense mine de bitume sont entassées directement au bord de l'eau. Pourtant, il y a tout juste 2 ans et demi, le gouvernement albanais avait déclaré la Viosa parc national afin de protéger ce fleuve à la dynamique fluviale unique en Europe.
Évidemment, dans un pays où les autorités appliquent les lois qu'elles font voter, il serait impossible que ces pollutions industrielles se déversent directement dans un fleuve, encore plus si cela concerne un parc national, comme c'est le cas désormais ici. Mais en Albanie, c'est possible. Et ce n'est malheureusement pas le seul problème qui impacte la Viosa. Elle fait face à de nombreuses pressions.
Pollution industrielle, extraction de gravier, mais aussi dérivation de l'eau des rivières. À une dizaine de kilomètres plus au sud, le principal affluent de la Viosa est presque à sec. Sa source est détournée pour alimenter les complexes touristiques en construction sur le littoral. Le chantier a un impact dramatique sur la flore et la faune locale. Et il est un crève-cœur pour le biologiste de l'ONG allemande Euronatur, Leonard Zonten.
Quand j'ai vu pour la première fois la Tchouchitsa il y a environ 2 ans, j'avais vraiment les larmes aux yeux. C'était tout simplement la plus belle rivière que j'ai vue de ma vie. On voyait très bien que cette rivière n'était pas modifiée par l'homme. Mais entre-temps, tout a changé. On le voit bien aujourd'hui avec ces machines qui extraient du gravier. Les camions sont en plein milieu du lit de la rivière et tranquillement, en plein parc national, ils détruisent son lit de gravier. C'est un véritable désastre pour cet habitat.
Le gouvernement albanais fait régulièrement la promotion de ses plages et de ses rivières sauvages en présentant le pays comme une destination verte. Une stratégie payante, la fréquentation a presque doublé en 5 ans avec plus de 10 millions de visiteurs l'an dernier. Des nouveaux venus qui sont souvent choqués par un autre fléau écologique.
On se trouve près de la Viosa, devant la décharge de Tepelena, devant une montagne de déchets de toutes sortes. C'est vraiment choquant.
Katrina Huka travaille pour Eco Albania. Alors que les rivières du pays servent bien souvent de poubelles, elle mène un difficile travail de sensibilisation.
D'un côté, c'est facile car c'est un problème répandu et les gens en sont bien conscients. Ces déchets impactent leur vie de tous les jours. Mais d'un autre côté, on est dans une situation où les municipalités n'ont pas de réel plan de gestion de ces déchets. Alors les gens disent qu'ils ne savent pas quoi faire, qu'il n'y a pas d'alternative. Et cette pollution liée aux déchets est l'un des principaux dangers qui menacent le parc national de la Viosa, tout comme l'absence de traitement des eaux usées.
Si la lutte contre les pollutions environnementales fait du surplace, les projets d'infrastructures liés au tourisme se développent à toute vitesse. L'aéroport international de Vlora devrait ouvrir l'an prochain, un aéroport construit dans le delta de la Viosa, au beau milieu d'une zone protégée.
Louis Seyé pour le reportage, merci beaucoup. La suite, il faut se baisser pour la ramasser parce que c'est sous les radars avec Guillaume Audin.
On la ramasse à Belém, Nord-Brésil, où l'on expulse des locataires pour accueillir des militants écolos venus du monde entier.
Et Caroline Gillet au pays des 27.
Oui, alors c'est quoi les paquets de sanctions contre la Russie et pourquoi on en est déjà à 19?
Allez, à tout de suite, nous faisons une escale en attendant un peu vers l'Égypte, un peu vers le Royaume-Uni avec Natacha Atlas et Oasis. Ne bougez pas. Qui a oublié de fermer son téléphone? C'est Guillaume Audin, tiens, qui arrive maintenant. Voilà, on rigole Guillaume, mais on rigole pas du tout parce que cette info est épouvantable. Ça se passe en Australie et l'homme qu'on entend là est un militant anti-islam invité par Sky News. Il est arrivé sur le plateau avec des tranches de bacon cru sur sa chemise sans être délogé.
Oui, et il a eu tout le loisir de vomir à l'antenne. Hein. Il n'y a pas d'autre mot, de vomir toute sa bile sur l'islam et tous ceux qui pratiquent cette religion. J'ai des tranches de bacon sur ma chemise. Pourquoi? Eh bien, pour éloigner les terroristes qui veulent me décapiter. C'est l'extrait qu'on vient d'entendre. Et lorsqu'il dit terroriste, se prénommait Ryan Williams, un influenceur d'extrême droite, 300 000 abonnés sur Insta. Il associe, dit et répète musulman sans être interrompu, ce qui lui permet de dérouler son propos dégradant, insultant, sans aucune contradiction. Mais là où l'affaire va plus loin, l'affaire dite du Bacon Man, c'est qu'il a été aidé en coulisses par un collaborateur de la chaîne australienne à placer le bacon bien en évidence sur sa chemise. La chaîne a eu beau présenter ses excuses, elle savait tout du numéro infâme que préparait son invité. On est en 2025, vous regardez la télé.
Il y a menos de 3 meses para a COP, o preço das hospedagens virou un problema.
La télé brésilienne, cette fois, un reportage sur l'explosion des loyers à Belém, qui accueille bientôt la COP30.
Oui, l'explosion des loyers, son corollaire, les expulsions. Alors d'abord, le prix classique d'un loyer à Belém, un appartement de 70 mètres carrés, ça vous coûte environ 700 euros par mois, en gros 23 euros par jour si vous êtes installé pour longtemps, par exemple en famille. Un chiffre, évidemment, à mettre en rapport avec une location type Airbnb à l'approche de la COP30, entre 500 et 1000 euros par nuit. C'est une fièvre immobilière qui s'est emparée de la ville. 50 000 participants sont attendus à la grand-messe environnementale planétaire. Il n'y a pas assez de logements disponibles, mais ça n'empêche pas les autorités d'inciter les habitants à profiter de cette opportunité du siècle. 12 jours, pour se remplir les poches. 12 jours pour mettre à la porte des centaines de familles. Plus de 3 000 sont en attente d'expulsion, d'après le site d'information brésilien Suma Houma, ça représente environ 10 000 hommes, femmes et enfants, sommés de faire place nette aux délégations écologistes qui arriveront évidemment pleines de bonnes intentions du monde entier dans 2 mois et demi environ à la COP30 et où iront en attendant les expulsés, peut-être dans les favelas où réside déjà plus de la moitié de la population de Belém.
Once you left office, how long before you turned on the news again?
Télévision, enfin, c'est un trio cette fois-ci. On est aux États-Unis avec un Stephen Colbert tout en ironie. Il recevait Kamala Harris dans son late show, candidate malheureuse évidemment à l'élection présidentielle.
Oui, elle lui répond à Stephen Colbert qu'il lui faudra des mois avant de refaire la une des journaux. En réalité, pas vraiment, puisque ce mardi sort son livre très attendu, 107 Days, 107 jours d'une campagne éclair. Alors d'après les premières critiques, je ne l'ai pas lu son ouvrage, je confesse. La démocrate
pas
se demande.
Pas sorti encore, sauf aux États-Unis.
Alors il sort aujourd'hui aux États-Unis, mais pas encore en France, pas de traduction. Mais en tout cas, à l'intérieur, visiblement, la démocrate se demande toujours pourquoi les Américains ont offert la Maison-Blanche à Trump, je cite, un tyran plutôt qu'à la compétente gestionnaire qu'elle est. Un exercice, son ouvrage, qui relève plus de l'anatomie d'une campagne ratée que d'une vision pour son pays avec de nouvelles idées, disent ses premiers lecteurs. Elle griffe pas mal dans son camp, sa seule autocritique, avoir trop longtemps respecté Biden, dont elle savait qu'il ne pourrait pas se représenter. Intéressant aussi ce qu'elle raconte de Trump, mais version coulisses, de ce qu'il disait à Kamala Harris, t'es une bonne cliente, t'es une cliente sérieuse et je te respecte beaucoup pour ça. En anglais, on dit, the show must go on.
Guillaume Audat, merci beaucoup. Vous repartez sous les radars jusqu'à demain et vous ouvrez la porte à Caroline Gillet qui attend sagement.
France Inter, le 18-20.
Caroline qui chaque semaine ouvre les portes de l'Europe et nous emmène dans le secret des institutions et leurs coulisses. Et ouais. Aujourd'hui, on retrouve Anna Hubert, journaliste de la revue en ligne Contexte.
Oui, on l'entend régulièrement ici. Elle fait vraiment de son mieux pour expliquer les sujets sur lesquels elle travaille et les sujets énergie.
Et alors, sur une échelle de la complexité européenne, on est à quel niveau ?
On dirait un 8 sur 10, je dirais. Dernière fois, Anna racontait comment la Commission tentait de contourner le veto des pays européens pro-Poutine pour imposer des sanctions inédites à la Russie. On en était alors à ce qu'on appelle le 18e paquet de sanctions. Je vous remets un petit extrait de ce qu'elle nous disait à l'époque. C'était donc dans le dernier épisode avec elle, avant l'été.
Précédemment, dans Caroline, au pays des 27.
On est maintenant au 18e paquet de sanctions. Et jusque-là, il a été impossible d'inclure le gaz, qui est une source de revenus importante pour la Russie, dans ces sanctions. Parce qu'il y avait des vétos trop forts, notamment de pays très dépendants du gaz russe, comme la Hongrie ou la Slovaquie, qui bloquaient.
Donc ça, c'était en juin. Depuis, il y a eu des gens qui ont pris des apéros sur des plages ou des balcons de toutes sortes. Il y a eu l'une ou l'autre canicule, des feux de forêt, et aussi des drones russes qui ont survolé le territoire européen, à plusieurs reprises. Anna Hubert, elle, a fait sa rentrée à Bruxelles.
J'ai mis mes petites chaussures à talons rouges pour égayer cette grisaille bruxelloise qui risque de nous être tombée dessus pour les 5 prochains mois, au bas mot.
Et là, jeudi dernier, Chris Wright, secrétaire d'État américain à l'énergie, vient parler à Bruxelles. Anna m'envoie l'enregistrement de sa conférence de presse, c'est lui qu'on entend. Il confirme ce qu'a dit Trump quelques jours plus tôt sur son réseau social, que les Américains n'avanceront avec leurs sanctions contre Poutine que si les pays de l'OTAN arrêtent complètement d'acheter du gaz et du pétrole russe. Et la menace a été accueillie favorablement à Bruxelles, parce que si c'est Trump qui met la pression, la Hongrie et la Slovaquie, très pro-Trump, vont peut-être enfin arrêter de mettre leur veto contre ces sanctions. C'est là que vendredi, la Commission annonce un 19e paquet de sanctions.
La Commission propose d'avancer d'un an l'interdiction totale des importations de GNL russe dans l'Union européenne.
GNL, gaz naturel liquéfié. Quand je suis passée dans votre bureau tout à l'heure, Fabienne, vous avez dit « La question quand même en écoutant Anna, c'est pourquoi est-ce qu'on en est au 19e paquet de sanctions et on n'a pas le sentiment que ça arrête Poutine ?»
Chère Fabienne, merci pour ta question. Je te répondrai que si ça n'a pas provoqué la fin de la guerre en Russie, c'est parce que c'est très facile de contourner les sanctions, notamment les sanctions énergétiques. Par exemple, il est interdit d'importer du pétrole russe en Europe. Mais si la Russie vend son pétrole à la Chine et que la Chine le vend à l'Europe, c'est difficile de prouver ensuite l'origine de départ.
La deuxième raison,
c'est que les Européens ne font pas forcément des sanctions ultra sévères parce qu'ils essayent de trouver le juste équilibre pour que la sanction ne les affecte pas plus eux que la Russie. Et donc, en général, on arrive à des textes assez dilués puisque chacun a un peu peur de l'impact que ça peut avoir sur son économie.
Donc pas facile de faire des sanctions efficaces. La pression américaine peut aider les institutions européennes à aller plus loin, mais si les Américains exigent qu'on arrête plus vite l'importation de combustibles fossiles russes, c'est peut-être aussi pour nous encourager à acheter plus chez eux. Et ça, c'est pas nouveau.
Je me dirige vers...
Anna monte sur la terrasse du Parlement.
J'avoue que je viens souvent avec l'espoir de tomber sur une bonne source qui ne répond plus par texto, qui serait obligée de me parler coincée sur la micro-terrasse du 7e. Et effectivement, le sujet qui prend.
Cet été déjà, pendant qu'on buvait des apéros au soleil, l'UE et les US signaient un accord sur les droits de douane américains qui prévoit que les Européens vont acheter pour 750 milliards de dollars de gaz et de produits nucléaires américains.
Il y a deux problèmes. D'abord, le gaz que l'Union européenne s'engage à importer, c'est du gaz qui ne respecte pas forcément les mêmes standards climatiques en termes d'émissions de gaz à effet de serre que les standards européens. C'est surtout du gaz de schiste. Et le deuxième, c'est purement un problème de forme, c'est-à-dire la Commission européenne, juridiquement, techniquement, n'a pas les moyens d'imposer aux entreprises européennes où elles doivent se fournir. Les contrats, c'est d'industriel à industriel. Quand on entend... les Américains, effectivement, l'Europe s'est engagée à importer. Et quand on entend les Européens et la Commission européenne, c'est plutôt une déclaration d'intention. La Commission va tout faire pour encourager les Européens à acheter leur énergie côté américain. Donc on voit bien que l'intérêt des Américains, il n'est pas uniquement de détruire la machine de guerre de Poutine, il est aussi commercial, quoi. Et les Européens sont pris dans cette espèce de jeu qui parfois les dépasse un peu. On a l'impression en tout cas. Oh, l'escalator, il ne marche plus. Je suis obligée de grimper deux étages à pied.
Attends, l'escalator, il ne marche plus ?
Il ne marche plus.
Mais elle est son venir, quoi. Et son prompteur, ça se passe comment pour son prompteur ?
Bon, merci à Anna Hubert.
Allez, à la semaine prochaine, Caroline. Merci beaucoup.